E-Radio, l'invité de la rédaction, Anna Battistella.
Bonjour, aujourd'hui on donne les bienvenus à monsieur le professeur Thierry Piel, maître des conférences en histoire ancienne à l'université de Nantes. Bonjour professeur.
Bonjour.
On parlera de l'histoire de l'Afghanistan, on fera une longue rétrospective. En fait, on ne parle de l'histoire de l'Afghanistan que par ses phases des différentes occupations étrangères, comme s'il n'existait pas avant les 1979 et comme s'il n'avait pas le droit d'exister après les 2021. On dit que l'histoire souvent est écrite par les vainqueurs, mais peut-on vraiment dire que l'Afghanistan a déjà été vaincu ?
Alors déjà, pour dire qu'elle a été vaincue, il faut qu'il existe déjà un État qu'on désigne sous le nom d'Afghanistan. Alors, historiquement, c'est en 1747 seulement qu'apparaît un État qui s'appelait l'Empire Durrani, du nom de la dynastie, une dynastie Pashtoun. Bah, une longue, longue histoire qui a été très riche sur le plan, en fait, civilisationnel, mais qui souvent a fait que ces territoires correspondant à l'Afghanistan actuel, et dont finalement les frontières actuelles remontent seulement à la fin du 19e siècle, eh bien ces territoires effectivement ont souvent été partagés par des États voisins, mais aussi ont pu faire partie de vastes ensembles, c'est-à-dire de territoires qui débordaient très largement les frontières de l'Afghanistan. C'est à ce titre-là qu'il faut distinguer ce qui est l'histoire d'un État-nation qui, je le répète, n'existe finalement que très récemment et dont les bases politiques n'ont été portées finalement sur les fonds baptismaux qu'au milieu du XVIIIe siècle, et un espace civilisationnel très riche et dont l'histoire remonte, je dirais même, jusqu'à la préhistoire, bien entendu.
D'abord, l'Afghanistan est aujourd'hui un des États les plus pauvres de la planète. Cela a toujours été le cas ?
Ah, ça n'a pas toujours été le cas, car il faut rappeler aussi que ça c'est très important, hein, la connaissance du passé d'un pays repose beaucoup aussi sur l'état de son archéologie. Or, il n'y a pas vraiment d'archéologie des périodes très anciennes de l'Afghanistan avant l'entre-deux-guerres. Hein. En effet, on trouve dans les années, on va dire, de 3e, 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc ce qui est une époque très ancienne, eh bien, les premières traces d'une civilisation assez brillante, comportant déjà de petites agglomérations, mais surtout de très beaux objets, témoignant donc d'une maîtrise de l'artisanat assez consommée, qu'on appelle aujourd'hui la civilisation de l'Oxus. C'est découvert par les archéologues russes dans les années 70, qui témoignent en effet bien du fait que l'Afghanistan est à ce moment-là bien au cœur, en fait, d'échanges divers entre le croissant fertile, où se trouvent les grandes civilisations mésopotamiennes, et ce qu'on appelle la civilisation de l'Indus, grande civilisation également, avec des grandes villes. Alors, malheureusement, pour cette époque, on n'a pas d'écriture, ce qui rend difficile la compréhension exactement de ce qui existait là. Mais il est clair qu'il y avait là une civilisation brillante, indéniablement. Par contre, pour la partie historique, pour comprendre historiquement l'Afghanistan, il faut attendre en fait l'occupation perse, lorsque l'Empire perse, fin 6e, début 5e siècle, donc occupe, annexe les territoires correspondant à l'Afghanistan. Et donc, à ce moment-là, en effet, on rentre dans une période qui est un peu mieux documentée. Et ben, un siècle et demi plus tard, ou deux siècles plus tard, Alexandre le Grand. Hein, et il fonde des villes qui, quelque part, existent encore. C'est le cas, par exemple, de Kandahar, qui est l'ancienne Alexandrie d'Arakozy.
Justement, vous rappelez des moments historiques très significatifs. Mais à quel moment l'Afghanistan s'est-il progressivement retrouvé en marge des grands mouvements du monde ?
Alors, en fait, l'Afghanistan, c'est une région qui, de prime abord, apparaît assez inaccessible, avec ses très hautes montagnes, la chaîne de l'Hindou Kouch, tueur d'hindous. C'est-à-dire, en fait, quand on franchit ces cols qui sont à de très hautes altitudes, surtout en hiver, on risquait, bien sûr, d'y perdre la vie. Donc, des montagnes, des déserts aussi, hein, des marais. Mais, en fait, au nord de l'Hindou Kouch, il y a de vastes vallées très fertiles où, bien sûr, l'élevage, l'agriculture étaient florissants. Pour prendre un exemple que nos éditeurs connaissent peut-être, la vallée du Panjshir, dont on a souvent parlé à cause d'un important acteur des guerres récentes qu'a connu l'Afghanistan, je pense au commandant Massoud ici, on l'appelait le lion du Panjshir, rappelle qu'effectivement là, on est sur un lieu de passage. Donc, le moment clé, souvent, eh bien, on considère que c'est l'époque justement qui suit Alexandre le Grand. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, eh bien, des royaumes grecs apparaissent dans ce territoire-là, royaumes grecs qui sont ensuite relayés par une civilisation très riche qu'on appelle la civilisation des Kushanas. Entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle, ils dominent la région. Alors quand je dis la région, c'est vraiment toute la région, Asie centrale, Afghanistan, ils mordent même un petit peu sur l'Inde, et donc il crée une ère, passage essentiel en fait de la route de la soie, parce que c'est l'époque où l'Empire romain est à son apogée, et où l'empire chinois des Han est à son apogée. Donc c'est à ce moment-là que le grand commerce se met véritablement en place. Or, l'Afghanistan est sur cette route. Et donc, bien sûr, elle bénéficie des retombées.
On arrive au 19e siècle, les pays se retrouvent au centre de grands jeux diplomatiques opposant Russes et Anglais. Quelles conséquences cela a-t-il sur l'évolution de l'émirat d'Afghanistan ?
L'Afghanistan naissant en 1747, d'un vide. C'est-à-dire que longtemps, depuis le 16e siècle, deux grandes puissances se partagent l'espace afghan, le territoire afghan. C'est la Perse des Safavides, d'une part, à l'ouest, et les Moghols, qui sont donc en Inde, à l'est. Et donc, c'est en jouant de l'affaiblissement de ces deux États que naît, en fait, l'État afghan. Les choses changent au 19e siècle. On a l'arrivée, bien sûr, de deux impérialismes. Les Russes, qui arrivent par le nord, hein, avec la conquête progressive de l'Asie centrale. Et puis les Anglais, qui occupent depuis longtemps l'Inde, mais qui progressent vers le nord. Et qu'est-ce qu'il y a, évidemment, entre l'Asie centrale et l'Inde ? Bah, il y a l'Afghanistan. Alors, en fait, l'Afghanistan n'attire pas tant pour elle-même et pour ses ressources qui ne sont pas visibles à l'époque, il faut le dire. La région, en fait, est dans une sorte de retrait. Rappelons que depuis que les Européens ont ouvert les routes de l'Atlantique, la route de la soie, c'est tari aussi. C'est une région qui devient marginale à partir du XVIe siècle et qui n'a plus, finalement, qu'un rayonnement assez local. Donc, ce sont des enjeux essentiellement stratégiques. Mais l'Afghanistan fait partie du grand jeu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y aura des guerres anglo-afghanes, les deux premiers ayant lieu au XIXe siècle, mais ce sont plus des guerres, en fait, préventives, mais qui, on le sait, aboutissent en 1879 au traité de Gandama, qui est un véritable protectorat que les Anglais posent sur l'Afghanistan, qui à ce moment-là perd une grande partie de son autonomie.
À partir de 1919, l'Afghanistan retrouve sa pleine indépendance. Les difficultés rencontrées par Amanullah Khan dans ses efforts pour moderniser son royaume ne seront-elles pas annonciatrices des désillusions à venir ?
Alors effectivement, c'est à l'issue de cette troisième guerre justement anglo-afghane que Amanullah réussit à obtenir un retour à sa pleine indépendance de l'Afghanistan. Alors, en effet, on l'a souvent comparé à Mustafa Kemal Atatürk, hein, le modernisateur de la Turquie. Il y a beaucoup de points communs. Hein. Après la deuxième guerre, justement, anglo-afghane, eh bien, les souverains afghans avaient justement commencé cette ouverture vers l'Occident, mais très timidement, et que dès cette époque, il y a des réactions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une élite éclairée et urbaine, dans un pays qui est peu urbanisé et qui se heurte, qui se heurte aux clans, qui se heurte à la ruralité dominante de la région. Et on a donc des mouvements intégristes qui apparaissent en fait dès cette époque. Et Amanullah, justement, a été victime de cela, puisque en 1927-28-29, il y a eu effectivement une révolte très importante de Kalakani, un Tadjik, qui met à feu et à sang une partie de l'Afghanistan parce qu'il refuse les évolutions occidentales.
C'est quand donc l'Afghanistan apparaît pour la première fois en temps qu'État constitué.
Alors en fait, souvent on considère justement que c'est avec Amanullah. Il y a une constitution, il prend d'ailleurs le nom de royaume, pour prendre un terme, et non pas d'émirat, comme terme qui avait longtemps servi de. En effet, c'est vraiment le moment clé, le moment du développement. Mais l'Afghanistan part avec beaucoup plus de retard. Et puis, je le répète, il n'y a pas les ressources naturelles qui peuvent être un inconvénient, parce qu'elles créent des convoitises, mais aussi elles suscitent des investissements. Et donc, par conséquent, il n'y a pas ces investissements-là. L'Afghanistan reste un pays fondamentalement extrêmement pauvre. Il l'est plus que jamais aujourd'hui.
À quel moment on peut alors parler des nations afghanes ?
Alors là, c'est plus compliqué, parce que c'est une des grosses difficultés de l'histoire de l'Afghanistan, d'avoir eu du mal à créer justement cette dynamique d'État-nation. Cela s'explique essentiellement d'abord par les modes de vie claniques, le cloisonnement. Je dirais pas tant par le fait qu'on a effectivement plusieurs ethnies ou plusieurs groupes ethno-linguistiques, certains plutôt turcs, d'autres plutôt iraniens, mais globalement, on a quand même des musulmans sunnites, quelques chiites dans la partie occidentale, ce qu'on appelle les Hazaras. C'est le fait effectivement, justement, à partir du 16e siècle, il y a une sorte de retrait de ce territoire des grands échanges et où donc cela a développé plutôt des structures localisées, donc des micro-états, des clans. Longtemps, il n'y a eu aucune voie de communication digne de ce nom. Donc c'est cette histoire de régions cloisonnées avec une absence, je dirais, de centre politique qui explique que lorsque en 1747 se met en place un État, il ne faut pas se leurrer, cela ne crée pas l'unité. Donc la notion d'État-nation qui de toute façon est une notion récente. Il faut le rappeler qu'elle remonte au 19e siècle, y compris en Europe. Donc on ne peut pas taxer quelque part les Afghans de retard. Alors je dirais qu'au 20e siècle, on voit bien apparaître quand même une logique, mais c'est une élite, ça ne concerne pas l'ensemble du pays.
Peut-on parler de régression pour l'Afghanistan ou au risque de tomber dans les pièges d'associer l'avenir au progrès humain et technique et les progrès à l'adhésion aux valeurs occidentales?
Moi, je partirais du postulat qu'il y a quand même un certain nombre de valeurs, qu'on va dire humanistes ou partagées, que je rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis on a une charte au niveau ONU, de l'ONU qui existe et qui, à mon avis, n'est pas contestable en soi. Après, ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'il y a eu certainement un aveuglement des Occidentaux lorsque, par exemple, ils reprennent en main ce pays. Et là, on tente de créer un peu ex nihilo un État à l'occidental, sans tenir compte, en fait, de certains éléments propres, effectivement, au pays, d'où le fiasco, parce que vous voulez dire, c'est un fiasco absolu. Et de toute façon, le fiasco, on savait déjà qu'il arrivait à grandes enjambées, je dirais, bien avant le départ des Occidentaux. Et là, c'est bien dû au fait que l'on a mis la charrue avant les bœufs et que, à vouloir, effectivement, parfois imposer un rythme historique, des valeurs, je dirais, en prêt-à-porter, on risque, bien sûr, de le clash.
Merci professeur Piel pour cette intéressante rétrospective et à la prochaine.
Au revoir.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.